Bonjour à tous et bienvenue sur Popote, l'émission pop culture qui régale. Et cette semaine, on a mis les petits plats dans les grands, ou plutôt les petits plats dans le grand écran, puisqu'on vous a concocté un numéro spécial ciné. Et oui, il y a énormément de belles sorties à se mettre sous la dent ces derniers temps, donc restez avec nous pour savoir ce qu'il ne faut pas rater en cette rentrée 2022. Mais avant ça, on va faire le point sur la Gamescom, on va parler musique avec les Arctic Monkeys, on va se pencher sur la crise que connaît la presse française en ce moment, le tout entrecoupé de blind tests, de quiz, bref, vous connaissez la formule. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Eh ben générique.
Ce sont des hommes brillants.
Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre?
Sexy, sensible, dynamique, brillant.
Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête.
J'ai mis le doigt sur du lourd.
D'entrée, les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer.
Leur méthode, c'est d'être des pros.
Ils vont changer l'histoire.
Ils sont là.
Tous en piste, les clowns.
Et c'est parti comme en 14.
Émission spéciale ciné, messieurs. Je vous ai senti un peu fatigué là sur l'intro. Hein. Vous êtes sûr que ça va hein?
Ça va.
Oh
oui,
là là,
ouais, très bien.
On a vraiment un délai de réponse. J'espère que ça va être un peu mieux dans les quiz. Et bon, écoutez, si vous allez bien, ça tombe bien. Parce que il faut savoir que vous êtes tous les trois de véritables puits de science incollables en ciné. Et j'avais envie de vous mettre à l'honneur ce soir et de vous faire briller un peu. Vous savez quoi? Avant de commencer la section actu, on n'a qu'à faire un jeu. Et allez, le premier à perdre commencera à faire la partie actu. Ça vous va?
Allez.
Alors, je vais commencer par Sombre Nerd. C'est pour vous, c'est vraiment facile, c'est pour vous mettre en jambe. Question pour Sombre Nerd. Déjà, est-ce que tu vas bien, Sombre Nerd?
Ça va pas trop mal.
Ça va pas trop mal, ok. Bah écoute, je sais que tu es un fanat de cinéma des années 80. Dans quel film de 1988 Tom Cruise joue-t-il le rôle d'un barman? Attention, c'est difficile. Hein.
J'ai honte de répondre à cette question, mais c'est Cocktail.
Cocktail, hein, il est chaud, bravo. Allez, question pour Woodgall maintenant. Concentre-toi bien, Woodgall. À quel réalisateur doit-on le film Abyss, sorti en 1989?
Oui, ah, aïe, 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 j'hésite, entre deux. Allez, je vais dire James Cameron.
Oh là, James Cameron, mais il est chaud, vraiment trop fort. Allez, question pour toi, Yavin, à ton tour de briller. Dans le film Hongrois, quand l'Alouette chante, sorti en 1936, quelle actrice incarne la baronne Margit von Bardi?
Oh le relou, je vais passer la réponse au cinéphile qui est Woodgall, qui saura bien mieux répondre que moi. Merci Woodgall.
Yavin, c'était bien sûr Martha Eggert.
Je te laisse.
C'était bien sûr Martha Eggert. Bon, les autres, vous le saviez. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais, bah, un peu déçu de ta prestation du coup, mais tu auras des chances de te rattraper, Yavin. Mais écoute, c'est la règle. C'est la règle. Donc on a dit, hein, celui qui perd commence la section actu. Donc à toi de commencer et je crois que... Je crois que tu...
le relou, méga relou de service.
Écoute, tu n'as pas été à la hauteur des deux autres. Hein. Et tu voulais nous parler plus sérieusement.
J'avoue.
Plus sérieusement, tu voulais nous parler d'une crise qui touche la presse, notamment la presse française en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Mais plus que la presse française, la presse surtout de cinéma, dans lequel apparemment je ne suis pas très versé. Au final, au vu de mes réponses à ta question, on a parlé dans une précédente édition de Popote de la situation des magazines de jeux vidéo et notamment de Canard PC. Et depuis, la situation a quelque peu évolué et c'est normal puisqu'en fait tous les magazines papier sont tout simplement touchés par la crise de la presse. En raison de quoi? En raison de l'augmentation des coûts du papier prohibitif, incroyable. Vous connaissez tous la situation inflationniste que nous vivons en ce moment. La presse, qui a toujours évidemment de gros enjeux en termes de coûts de papier, le prend de plein fouet. Et c'est très rare, et c'est important de le souligner, que des magazines de presse qui ne font pas partie des mêmes groupes de presse s'allient et s'associent et fassent des lettres ouvertes ensemble. C'est très très rare, les milieux journalistiques n'ont pas l'habitude de ça. Et là, on a des magazines très iconiques. Woodgall connaît très bien, par exemple, Mad Movies, les Cahiers du Cinéma également. Vous voyez, les Mad Movies et les Cahiers du Cinéma se sont quand même associés dans une lettre ouverte, ce qui est déjà phénoménal.
J'avoue.
Mais aussi d'autres magazines comme positif, cinématiseur, et etc., etc. On fait tout simplement une lettre une lettre ouverte et commune à la ministre de la Culture pour demander finalement de leur venir en aide, parce que c'est juste très difficile en ce moment pour eux, que c'est pas sûr qu'en fait certains de ces magazines pourront passer l'année. Il y a des magazines là qui ont des décennies d'existence, hein, je pense au Cahier du Cinéma qui sont là depuis très très longtemps. C'est extrêmement compliqué. Alors vous pourrez me dire exactement comme avec Canard PC, bah oui, mais pourquoi ne pas prendre le virage du digital? Bah parce que c'est pas forcément remplaçable en fait le nombre de lecteurs. Les lecteurs qui sont attachés à ces magazines, qui sont attachés à leur culture du magazine papier, ne vont pas forcément vers le digital. Tous essayent, tous y vont, mais ça n'est pas forcément la solution en tout cas actuellement. Donc effectivement, il y a besoin en fait de soutenir en fait ces magazines, et à notre petite échelle, la meilleure manière de soutenir finalement ces magazines, c'est de prendre ses pieds et d'aller acheter l'un ou l'autre de ces magazines. Voilà.
Bah écoute, déjà je tenais à m'excuser Yavin pour ce petit piège de début. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur.
Non, mais je me vengerai, par contre, évidemment.
Je t'ai peut-être un petit peu surestimé, je l'avoue.
J'ai l'impression que je vais prendre cher, moi, dans ce podcast, en fait.
Non, c'est promis. Pour le reste, on va être gentil. Et écoute, merci pour ce tour d'horizon sur la crise de la presse. Effectivement, très important de continuer à soutenir. Je sais que y en a un qui continue à soutenir la presse ciné, notamment avec Mad Movies, c'est Woodgall. Et oui. Et justement, Woodgall, toi, tu vas nous parler d'une actu qui n'a rien à voir, d'ailleurs, mais d'une industrie qui connaît pas la crise, pour le coup, celle des jeux vidéo, puisque on a eu, il y a quelques temps, droit à la Gamescom. Qu'est-ce que c'est que la Gamescom?
Tout à fait. Alors, la Gamescom, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en deux mots, c'est un salon de jeux vidéo qui se déroule en Allemagne, à Cologne. Il se tient souvent à la fin du mois d'août, donc cette année il s'est tenu du 24 au 28 août, et à savoir que les deux dernières éditions étaient entièrement virtuelles. Vous savez pourquoi? Je vais pas m'étendre là-dessus. Là on avait un mix plutôt de conférences digitales et physiques. La particularité c'est que l'on peut y aller. Toi, simple joueur lambda, n'est-ce pas? Tu peux te rendre à la Gamescom et aller tester les jeux. Contrairement à certains salons taillés uniquement pour les professionnels, au hasard, le 3, tout à fait, ouais. Enfin, même si le 3 n'existe plus vraiment, quoi. Mais il faut savoir que c'est un salon, donc, dans lequel on peut se rendre. Donc, le salon démarre avec un show physique en direct qui est retransmis en direct sur Twitch, YouTube. C'est l'Opening Night Live, présenté par un monsieur que l'on a déjà évoqué dans Popote, hein, qui est Geoff Keighley, producteur des Game Awards. D'ailleurs, on va pas tarder à en parler, des Game Awards, le fameux Geoff Keighley. Des éditeurs présents, bien entendu, comme Xbox, Ubisoft, mais de grands absents, hein, parce que c'est des acteurs qui vont sûrement vouloir faire leur conférence un peu en marge de la Gamescom. Sur septembre, octobre, notamment je pense à Sony, je pense à Nintendo, à Electronic Arts ou Take-Two Interactive. D'ailleurs, Sony, je crois qu'ils ont annoncé faire une présentation dédiée notamment à God of War, Ragnarok, qui arrive bientôt. Et qu'est-ce qui s'est dit pendant cette conférence, hein, des annonces, des présentations de jeux? Et messieurs, si ça vous dit... on va faire un petit tour de table et parler des jeux qui nous ont un petit peu marqués pendant cette Gamescom. Déjà, est-ce que vous avez retenu des jeux qui vous ont marqué dans cette Gamescom?
Ah oui, quelques-uns.
Ouais.
Allez, je vais commencer. J'ai moins suivi la Gamescom que d'habitude, donc j'ai pas tout vu, mais dans ce que j'ai vu, je retiens évidemment Life of Pi. Pardon, Lies of Pi. Ouais. Life of Pi, c'est un film sur un bateau, ça n'a rien à voir. Non, Lies of Pi, c'est bien sûr un Pinocchio énervé. C'est l'histoire de Pinocchio, mais retravaillé dans un monde gothique, très très désespéré. Et le deuxième jeu qui a capté mon attention, ça va être Planet of Lana, qui est un petit jeu qui est un peu une déclaration d'amour au film d'animation japonais avec des références au voyage de Chihiro, voilà, ce genre de choses. Ça a l'air très mignon, très sympa. Donc voilà, moi c'est peut-être les deux jeux que j'attends le plus. Et toi, Yavin?
Bah, c'est bien que tu me passes la parole puisque j'avais eu le même coup de cœur pour Planet of Lana. Donc pour le coup, bah voilà, on a deux avis pour celui-là. J'ai retenu aussi le futur Quantic Dream Under the Waves qui me parle beaucoup, bah, tout simplement parce que j'aime beaucoup les jeux de Quantic Dream et voilà, j'ai très très hâte d'y jouer. L'idée, bah, c'est de jouer un plongeur qui va se retrouver très profond sous l'eau et qui va découvrir pas mal de choses dont on ne sait finalement pas grand chose puisque le jeu reste très mystérieux. Mais Quantic Dream, pour rappel, est un studio français qui n'a pas beaucoup de jeux à son actif, qui a longtemps été exclusif chez Sony de mémoire et qui a fait des Fahrenheit, Détroit récemment, j'ai plus forcément les autres en tête, Heavy Rain, et il doit y en avoir d'autres qui m'échappent là, mais de très très bons jeux qui sont parfois souvent moqués par la communauté hardcore gamer ou core gamer dont Boot Golf fait partie, et je pense qu'il n'en dira pas forcément que du bien, mais c'est pas grave. Et voilà, petit coup de cœur, et aussi une arlésienne que j'attends pas mal, c'est Dead Island 2.
Ah oui.
Qui traîne depuis des années, je sais plus depuis combien de temps il retarde ce jeu, c'est juste incroyable. Donc c'est du massacre de zombies, il y a eu une époque où il y a eu beaucoup beaucoup de jeux de zombies, bah lui du coup c'est le dernier, forcément tout le monde a abandonné le truc sauf eux, puisqu'ils sont en retard, ils sont en retard de bien 5-6 ans, donc voilà.
Même studio qui fait Dying Light d'ailleurs.
Oui, tout à fait, ça, hein. Exactement. Ils sont plusieurs studios en fait. Sur Dead Island 2, il y a plusieurs studios, il y a Sumo Digital, il y a Deep Silver à l'édition, etc. Mais okay. Il y a pas mal de gens impliqués, d'où les retards.
Et t'avais aimé le 1 aussi, le premier, ouais. Dead Island. Justement, on peut passer la parole à Sombre Nerd, qui est lui aussi un amateur de zombies, mais je sais pas si tu attends Dead Island en particulier.
Ouais, si, je l'ai mis. Dead Island 2, j'ai fait le premier, qui est sorti en 2011. Et j'avais bien aimé, c'était sympa, système de craft et tout, c'était quand même très très fun comme jeu, et c'était, ce qui est très chouette, c'est que tu pouvais jouer jusqu'à 4 en ligne, en coop, donc c'était vraiment chouette, tu te faisais tes armes, des super armes, tu défonçais les zombies et tout, c'était vraiment cool, donc c'était en plus sur une île, c'était bien sympa. Là ça se passera à Los Angeles. Je sais pas où sera l'île. J'imagine qu'ils vont fermer une partie, mais bon, ça reste hyper intéressant. J'avais mis Planet of Lana aussi, qui est vraiment sublime. Les images sont très belles, qui sort au printemps 2023 sur PC et Xbox. Et puis, j'ai deux autres jeux. J'ai Atlas Fallen, dont j'ai vu la bande-annonce et elle donne tellement envie. C'est un action RPG. Alors évidemment, c'est une bande-annonce, ça représente, elle est pas représentative du jeu, mais en tout cas l'ambiance, les décors, enfin en tout cas l'univers et tout ça, ça donne hyper envie. J'ai hâte de voir le jeu tourner. J'espère que ça sera pas tout pourri. Et ça, c'est sorti 2023 au mieux. Et puis celui que j'attends mais qui arrive bientôt, le 19 septembre, il va sortir sur PC et Switch, c'est Return to Monkey Island.
Ah mais oui, bien sûr.
Qui donc avec à l'écriture à nouveau Ron Gilbert et Dave Grossman, qui sont les auteurs de la série, hein, les auteurs de la série originelle. Et du coup voilà, il y a juste un doute sur la direction artistique qui m'interroge. Je trouve voilà, ça sort un petit peu de ce à quoi on est habitué, mais bon, pourquoi pas. J'ai hâte de le tester, de me marrer quoi.
Je trouve limite que les vieux Monkey Island sont plus jolis que celui-là. Mais ouais, si l'humour est présent, si l'écriture est présente, c'est clair que je les ferai aussi.
Mm-hmm. Alors sur les Monkey Island, je crois que c'est une habitude de changer de style en fonction des jeux, non ? Il y a eu différents styles à chaque fois.
Pas aussi radical en tout cas.
Ah ouais, pas aussi radical ? Ah, oh, il y a eu un style un peu dessin animé sur le 3, non ? D'accord.
Oh, c'était toujours très DA. Hein.
Ok. Bon.
Effectivement, c'est peut-être le 3 que j'ai en tête, ouais, ouais. Effectivement.
Ouais, mais je pensais
assez
que
c'est magnifique. Ouais.
Ouais. Approche artistique différente. Ouais. Pour Dead Island, l'île, bon, je pense que c'est Alcatraz, non, du coup ? Alors, je pense
non,
pas que
le jeu, Los Angeles.
Il est de nouveau pas réveillé, oui. Attention.
Ah oui. Mince.
Non, mais Dead Island, c'est juste le Paris-Dakar. Il garde le nom, mais on change totalement d'endroit. Ou Pékin Express, en fait, tout simplement.
Pékin Express.
Exactement.
C'est vrai.
Ou Koh-Lanta.
Oui, aussi. Aussi. Bah, sur mes jeux pas très original, hein, j'allais aussi parler de Planet of Lana. À savoir donc que les décors sont entièrement peints à la main, Donc je vous conseille vivement d'aller voir les trailers. C'est un jeu qui est plutôt plutôt chatoyant dans l'univers qui propose. Alors, on l'a pas évoqué, Plague Tale Requiem aussi, qui est prévu le 18 octobre. Donc là, c'est la suite de Plague Tale Innocence, hein, où on retrouve toujours Amicia et son petit frère Hugo dans cette... je crois que c'est quelle période historique ? L'Inquisition, non ? Je crois.
Ouais, bon. C'est à peu près ça, ouais.
C'est, ouais. Et ça se passe en France. Dans le passé, quoi. Dans le passé, voilà, c'est ça. Et c'est toujours développé donc par le studio bordelais Asobo. Et j'ai mis en trois un jeu, je pense que ça va pas parler à grand monde, mais qui est Atomic Heart, qui sort en décembre. Et pourquoi je l'ai mis, ce jeu ? Parce que je suis féru, moi, de FPS solo, type Bioshock. C'est des types de FPS où les univers sont souvent assez travaillés. Il y a une histoire, il y a des énigmes, il y a des et ce jeu me fait vraiment penser à BioShock. Donc c'est quoi Atomic Heart en deux mots, hein, c'est un RPG d'action en mode fermé avec une proposition artistique. C'est surtout ça qui est à retenir, qui est complètement barré, puisque ça se déroule dans une Russie un peu dystopique en 1955 pour être exact. Et on joue un personnage dans trois jours, en gros, les robots seront contrôlables par l'esprit. Et on joue donc avant ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'histoire, etc. Je sais pas. Les développeurs n'ont pas forcément été très très verbeux là-dessus, mais voilà. Donc là aussi, je conseille d'aller jeter un œil. Ça, en tout cas, moi, ça me fait vraiment envie. Voilà.
Ça a l'air très très steampunk. Un peu post-apo ou rétro-futuriste, ça a l'air très très sympa. Mm-hmm. Et puis bah évidemment oui, Plague Tales, on en avait parlé, hein, ça fait, je crois que c'est la troisième fois qu'on en parle. Donc effectivement, mais là c'était pas une world premiere, c'est-à-dire que c'était pas une annonce de la Gamescom. Je me demande si Planet of Lana c'était la première annonce qu'on a eue de ce jeu. Non, il avait été montré avant.
Il y a à peu près un an, moment. Un show Xbox, ah, oui. Je crois. Ouais.
D'accord, bah en tout cas, ouais, ça, on l'attend de pied ferme. Bah, écoutez, merci messieurs, et sur un tout autre sujet, toujours dans la partie actu, je crois que Sombre Nerd, il avait envie de nous parler de musique, pour un peu ouvrir nos esprits.
Eh ben c'est, mais de quoi donc c'est le but. Eh bien, je veux juste vous parler du dernier single de Arctic Monkeys, qui est le meilleur groupe de rock du moment. On va pas tergiverser, faut le dire. Et donc, ils ont sorti un petit single juste avant donc la sortie de leur album qui s'appelle The Car, qui c'est leur septième album d'ailleurs, qui est donc prévu pour le 21 octobre 2022. Et donc, il y a un petit single qui sort. Ça s'appelle Zed. Better be a marble, et c'est plutôt cool, donc je vous propose qu'on écoute un extrait. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a très orchestral, c'est magnifique, la voix est encore superbe, bien posée. Bah, c'est du grand art, on va pas se mentir, c'est du beau. J'ai dit du beau rock, ça se voit pas ici peut-être, mais voilà, j'aime beaucoup Arctic Monkeys, pardon, et j'ai hâte que l'album sorte.
Bah écoute, on va suivre ça avec intérêt. Perso moi aussi, hein, je suis archi fan. Enfin, surtout il y a 10 ans, j'étais archi fan des Arctic Monkeys. J'ai moins suivi ce qu'ils ont fait récemment, mais je suis surtout fan du frontman, quoi, du chanteur Alex Turner, hein, même dans ses projets annexes qu'il a fait. Toujours hyper intéressant. Bah écoutez, merci messieurs, ça conclut la partie actu. Merci encore pour ce tour d'horizon très complet, hein, de ce qui se fait de mieux dans la pop culture. Et oui, une rubrique actu un peu plus courte, hein, que d'ordinaire, parce qu'on a plein de choses à aborder ce soir. Voilà la vérité. Y a une tonne de films dont on avait envie de vous parler. Et on va commencer. On va commencer la partie ciné. Et puis, je vais laisser la parole à Woodgall. Mais avant ça, on va faire un petit quiz. Mais un vrai, cette fois, t'inquiète pas, Yavin. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous êtes prêts ?
On est prêts, on est chaud.
Alors, Quiz, non, je donne pas d'indice. Je donne pas d'indice. On va juste dire que, allez, on est en plein dans les, je rigole d'avance, dans les années 90. Et attention, ça va être une question de rapidité sur un blind test. Le premier qui me sort le nom du film, c'est parti.
En chacun de nous,
Predator
brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver.
Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi.
Trois étrangers vont se rendre dans le mystère.
Un peu honte d'avoir trouvé ça, mais.
Et oui, voilà, c'était un quiz test pour savoir qui avait des goûts de chiottes.
Et écoutez, j'assume, je m'appelle Woodgall.
Et bah bravo, ça fait un point pour toi, Sombrenner. Non, un vrai classique, un film culte, un vrai nanar.
Mais
il y a surtout, bah oui, il y a surtout Christophe Lambert, hein, heureusement, là, notre fierté nationale, qui prête sa voix à Raiden, le dieu du tonnerre.
Et le corps aussi, et le corps. Et
oui, pas que la voix, effectivement.
Non, attends deux secondes, parce que je pense que les auditeurs n'ont pas entendu le titre du film.
Ah oui? Ah oui, parce que c'était noyé dans le son. C'était bien sûr Mortal Kombat 1995, un film de...
Ah, Steven Spielberg, évidemment.
Un film de... je crois que c'est P.T. Anderson. P.T. Anderson, mais pas celui que vous connaissez. L'autre.
La copie.
Parce que, non, mais c'est vrai, c'est... Y a, dans le cinéma, il y a deux Paul Anderson. Et il y a celui qu'on connaît de Magnolia, de Punch Drunk Love. Et il y a celui qui a fait Mortal Kombat. Donc voilà. C'est malheureusement, voilà, il restera moins dans l'histoire, en tout cas pas pour les mêmes.
C'est pas Pity, hein.
Non, l'autre c'est PWS, ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est deux Paul Anderson. Eh bien, bravo à toi encore une fois, sombre nerd, le spécialiste de Mortal Kombat. et des films des années 90. Allez, deuxième question. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Vous connaissez peut-être tous, en tout cas de nom, la maison de production Blumhouse, fondée par Jason Blum en 2000. Alors vous savez, c'est la maison de production à qui on doit par exemple Get Out. Et là je fais le lien avec l'œuvre que va nous présenter Woodgall dans un instant. Et donc eux, leur spécialité, c'est surtout des films de genre, souvent tournés vers l'horreur, avec un petit budget. Et c'est vraiment leur ADN, c'est des films malins qui coûtent pas très cher à faire, mais qui sont des films d'ambiance et qui cartonnent au box-office, ou qui en tout cas sont très rentables. Et la question est la suivante: quel film, véritable phénomène mondial, sorti en 1999, a inspiré Jason Blum quand il a fondé Blumhouse?
C'est dur, 99, c'est une énorme année de cinéma.
Je sais.
Vas-y.
C'est un film de found footage qui se passe dans une forêt.
Oui.
C'est bon, je l'ai. Oui.
Et je l'ai trouvé, mais j'ai... Putain, alors j'ai perdu le titre.
Blair Witch.
Blair Witch. Le projet Blair Witch.
Oh, il a perdu le titre.
Non, mais... Oh non, je le laisse.
Il te l'a volé.
Je le laisse.
Il te l'a volé, mais ouais.
Non, non, il n'y a pas de souci. J'ai oublié le titre. Projet Blair Witch, c'est ça, ouais.
Et oui, le projet Blair Witch. Alors, l'histoire raconte que Jason Blum, il était un peu deg en voyant que le projet Blair Witch, sorti en 99, donc tourné pour la modique somme de 60 000 $, donc ça a coûté quasiment rien, a engrangé 250 millions de recettes mondiales. Donc, il s'est dit, c'est ça que je veux faire, des films qui coûtent pas cher, mais qui rapportent gros. Et voilà, vous connaissez la suite. Et la suite, justement, c'est toi, Woodgall, qui va nous en parler, je crois en tout cas, puisque tu as vu un film qui fait peur il n'y a pas longtemps.
Exactement. Juste avant, le film qui a suivi un petit peu cette mouvance justement, un projet Blair Witch, c'est les Paranormal Activity aussi. Des films à très petit budget. Voilà.
Et ça, c'est
un peu fan footage. Et ça, je crois que c'est aussi Blumhouse. Et il y en a eu 6 ou 7.
Et ils se sont complètement inspirés de la recette de Projet Blair Witch pour faire justement les Paranormal Activity et tout le reste, effectivement.
C'est
et
ça.
Aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'un film sorti là cet été, peut-être toujours en salle, qui s'appelle Nope. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Tout à fait, je vais vous en dire un peu plus. Alors, on a beaucoup de films à présenter, donc je vais pas forcément m'étendre beaucoup, mais en tout cas, sachez que c'est un film que je vous conseille d'aller voir. Nope, c'est quoi? C'est un film qui a été réalisé par Jordan Peele, à qui l'on doit notamment Get Out, qui est sorti il y a quelques années de cela, et Us également. Et donc, ce monsieur a donc proposé un film qui mélange science-fiction, horreur, western, on a une composante aussi un peu satire sociale, un peu thriller, et parfois on a des scènes aussi qui sont en mode pur film d'horreur ou de blockbuster très très popcorn. Donc ça peut paraître un petit peu fouillis comme film parfois, mais au final ça reste assez maîtrisé. En tout cas, on sort de Nope, on a vraiment l'impression d'avoir vu un film qui se détache un peu de la masse de films qu'on a l'habitude de voir. C'est pas du tout calibré comme un film d'horreur classique, hein. Mais c'est en ça que c'est une œuvre intéressante. C'est un vrai cinéphile, hein, Jordan Peele. On le voit sur sa manière de filmer, sur la photographie. Il s'est fait accompagner par un certain chef opérateur qui a travaillé sur Ad Astra. Alors ça va pas vous parler, moi ça me parlait pas. Hein. Il s'appelle Hoyt Van Hoytema.
Merveilleux film Ad Astra.
Voilà, Ad Astra, film de James Gray avec Brad Pitt. Hein. Super film qui a été boudé en salle. Moi j'écoute encore la BO. Je vous conseille d'écouter la BO aussi. Et la BO de, si je me trompe pas, de Richter, je crois. Donc, ouais. Bon, je vous laisserai regarder ça.
On retrouvera,
mais la BO vaut le coup. Il a aussi travaillé sur Heure ou Morse, d'ailleurs, ce chef opérateur. Donc, on n'est pas sur un film fait avec deux bouts, deux ficelles, un peu mal fait, etc. Enfin, il y a une vraie intention de faire quelque chose de propre en termes de réalisation. De transmettre des idées, il y a plein d'idées visuelles intéressantes dans le film. Il joue beaucoup avec des clichés un peu de films d'horreur. Donc on a l'impression par exemple d'être en face d'un monstre, d'un extraterrestre, mais en fait ça va pas être ça va être tout autre chose. Donc il nous fait valdinguer un peu de tous les côtés. Il joue un peu avec le téléspectateur, donc c'est en ça que le film est assez malin. On n'est pas sur un film aussi où la créature est révélée tout à la fin, hein. La révélation de la créature se fait petit à petit. Je vais pas trop vous en parler pour pas vous spoiler parce que c'est un peu le cœur du film. Et c'est aussi un film qui sait faire intervenir l'extraordinaire dans le quotidien, en fait. Et j'aime beaucoup ces films-là où, au final, ça pourrait nous arriver à tous. On se balade dans la rue et on voit quelque chose de complètement d'extraordinaire. Un film qui m'avait procuré ça, c'était Cloverfield aussi. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Cloverfield, etc. Mais cette entrée de l'extraordinaire dans quelque chose, dans un environnement tout à fait normal, où il y a une exposition, où on voit des personnages travailler, évoluer de manière tout à fait normale, et faire intervenir l'extraordinaire dans ce climat-là, je trouve que ça emphase justement le côté extraordinaire, et c'est un film qui sait assez bien le faire. Donc c'est un grand film d'alien ambitieux, assez, qui reste assez émouvant, sur l'art vraiment de faire du cinéma et cette ingéniosité là, comme je vous ai dit, hein, qui arrive à capter vraiment l'incroyable à l'image, et c'est très bien fait pour ça. Je me suis pas trop étendu sur l'histoire, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, mais
ouais,
en même
de quoi
temps,
ça parle,
mais de quoi ça parle exactement, là je vous ai plus parlé de,
tu veux garder peut-être la surprise,
de mes ressentis, ouais, peut-être garder un petit peu la surprise, mais en tout cas on est dans une ambiance un petit peu ranch où on suit deux personnages, un frère, une sœur. Le père vient de mourir et il s'avère que ils se font un petit peu attaquer, on va dire, par une créature de type extraterrestre, hein, qui de temps en temps vient gober comme ça soit des humains, soit des chevaux. Et voilà, donc tout le film, c'est ça. Ils essayent de s'en sortir face à cet ennemi-là. Et alors, à un moment donné, c'est assez drôle. Il y a un réalisateur aussi, un petit peu limite retraité, qui a envie de capter vraiment de capter l'image ultime. Donc c'est pour ça, il y a pas mal de clichés au cinéma, aux techniques de prise de vue, etc. C'est en ça que Jordan Peele, on sent que c'est un monsieur qui aime beaucoup le cinéma. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite.
C'est un vrai fan de cinéma. Hein.
C'est un et ça se voit, ça transpire sur ces images. Ouais.
Est-ce que tu remarques un genre de progression depuis Get Out? T'as parlé du deuxième film Us et là je crois que c'est son troisième film. Oui. Est-ce que tu sens une progression, peut-être plus de maîtrise, ou Get Out était déjà très maîtrisé de mémoire? Hein.
Oui, on sent une progression du monsieur, en effet. Get Out, c'était plus... Alors, c'est pas trop comparable en termes de réalisation. Hein. C'est presque un huis clos, Get Out, au final. En termes d'espace, on est quasiment au même endroit, hein, dans cette maison-là. Là, on voit vraiment la fracture, puisque le monsieur filme vraiment de grands, grands, grands espaces. Par exemple, à un moment donné, on voit des plans avec un cavalier et l'extraterrestre qui surgit derrière, comme ça. Enfin, c'est des plans qu'on n'a pas vus ni dans Get Out, ni dans Us, en fait. Et on voit vraiment une fracture de style par rapport à ces deux films, et une évolution qualitative. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il a fait appel notamment à ce monsieur-là que je vous ai évoqué, Hoyt Van Hoytema. Et d'ailleurs, il y a une scène dans Ad Astra, ça me fait penser, qui se passe sur la Lune. Je sais pas si vous la voyez, cette scène, une scène de poursuite sur la Lune dans Ad Astra, et qui est, on retrouve un peu cette manière de filmer aussi dans Nope, lorsque le héros sur son cheval se fait poursuivre par l'extraterrestre. Donc c'est en ça que, oui, on peut dire qu'il y a une évolution qualitative, parce qu'il s'est bien entouré, le monsieur.
D'accord, oui, déjà, ouais, ouais, il commence à se faire un nom, c'est ça. Un nom très vite, en fait, hein. Mmh. Et du coup, ça attire d'autres grands noms. Le chef-op, tu m'as dit, c'était le chef-op de Morse et de Her. Donc,
de Her et de Ad Astra.
Films sont formellement, voilà, des films formellement très, très réussis.
C'est ça.
Écoute.
Juste, pardon, excuse-moi, pour finir, enfin, l'acteur principal, c'est Daniel Kaluuya, c'est l'acteur qu'on retrouve dans Get Out. Et qui est dans Us aussi, d'ailleurs.
Même acteur.
Ouais, c'est le même acteur. Et c'est des rumeurs, mais il y aurait potentiellement une suite de prévues. Qui s'appelle Nothing. Voilà.
Oui, j'ai vu passer l'info. Il y a un personnage mystérieux qui apparaît dans Nope.
Dans les
et qui serait
crédits d'une bande-annonce. Enfin, c'est
dans
peu,
les crédits, ouais.
Et mais qui n'est pas visible à l'écran. Est-ce qu'il a voulu nous teaser la suite, etc. Donc, bon.
D'accord. C'est potentiellement du teasing
exactement.
Plutôt malin pour une suite.
C'est ça.
À voir. Bah, ne nous en dis pas plus, mais peut-être que le film appelle une suite. En tout cas, si
pas
vous
vraiment.
Voulez frissonner, séance. Pas vraiment. Ah, il
non.
Tous à la fin, donc. Ok.
Voilà.
Et boum.
N'allez pas le voir. Économisez 15 euros.
Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est en ce moment au cinéma, c'est du bon cinéma, on peut dire d'horreur?
Ouais, c'est compliqué de dire que c'est un cinéma d'horreur. Allez, partons sur de la science-fiction d'horreur. Allez, voilà.
Allez, voilà, science-fiction d'horreur, adjugé, vendu. Eh ben, parfait, le message est passé, on ira le voir. Il y en a un qui ira voir tout, partout et en même temps. C'est Yavin, puisqu'il va nous parler de Everything Everywhere All at Once. je crois que tu allais voir ce phénomène mondial, parce que c'est un film dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film déjà? Qu'est-ce que c'est?
Alors, je peux en parler, et par contre, comme on m'a accusé de ne pas avoir de culture ciné et que vous avez parlé de 1999 et de Blair Witch, je me permets, puisque ça n'a peut-être pas été entendu, de rappeler que 1999 a été une merveilleuse année pour le cinéma, et je peux vous le dire de mémoire. Et après, j'ai quand même vérifié que je ne me plantais pas. 1999, pour la petite histoire, c'est l'année où est sorti effectivement Blair Witch, mais aussi American Beauty, un film absolument merveilleux, un de mes films préférés, Fight Club, film absolument merveilleux, La Ligne Rouge de Terrence Malick, Matrix, Magnolia et The Insider de Michael Mann. Voilà, pour je contextualiser, 1999, c'était une putain d'année de cinéma, tout simplement, c'est une des plus belles, et j'en ai oublié plein là-dedans, parce qu'en regardant pendant que vous parliez, il y en a eu plein d'autres sorties cette année-là. Voilà, pour ça, c'est juste pour rappeler à tous les auditeurs et les auditrices que non, j'ai de la culture ciné, on ne me fera pas dire le contraire et on ne laissera pas.
On a touché Charlie l'ego, Boy on a dire touché son ego là, attention.
Ouais, ouais, là,
ah ouais, ça y est, ah, il est vexé parce qu'il connaissait pas le bah, film hongrois. Voilà.
Il est allé voir sur Google.
On croit rêver.
Pour faire une sortie, une liste.
Oh, joli.
Donc voilà, oui, je vais parler de Everything Everywhere.
Ça nous amène à ton film.
Oui, Everything Everywhere, All at Once, film que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pour la petite histoire dans un article du journal Le Parisien une semaine avant sa sortie, qui expliquait qu'en fait, bah, le film était ressorti aux États-Unis à la suite d'une une campagne de marketing virale qui s'est créée toute seule en fait sur les réseaux sociaux américains et qui a propulsé le film à des niveaux assez stratosphériques. C'est un petit film. Ce qui est difficile en ce moment pour le cinéma de sortir des petits films. Quand on dit petit film, c'est un film à 25 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, c'est en fait très peu pour un film américain dans le système hollywoodien. 25 millions de dollars, c'est vraiment absolument rien. C'est produit par le studio A24, et Woodcote, je pense, pourrait nous parler du studio A24, je pense que cinéphile comme il est, il connaît très bien, c'est le studio de production qui est à l'origine du film Midsommar, si je me souviens bien. Et donc Everything Everywhere, c'est quoi? C'est un film de Daniel Kwan et Daniel Shenert. Et c'est pour ça que sur les affiches, vous pouvez voir un film des Daniels, puisque leur petit surnom, c'est les Daniels, ils s'appellent tous les deux Daniel. Donc c'est sorti à 6 mois, 7 mois aux États-Unis, ressorti ensuite. Ça a eu beaucoup de mal à arriver chez nous. C'est sorti là récemment, une petite semaine à la rentrée. Et c'est un film OVNI, donc qui a été réalisé par Daniel Kwan et Daniel Shenert. Et l'idée, bah, c'est une femme asiatique qui est dans la cinquantaine, soixantaine, je ne sais pas exactement, qui vit aux États-Unis, qui tient une laverie avec sa famille, c'est une affaire de famille. Elle subit un redressement fiscal, elle va au contrôle des impôts, donc on peut se le dire franchement, ça fait pas rêver hein, comme pitch quand on le dit comme ça, donc on n'a pas très très envie d'aller le voir, ça fait un peu cinéma d'auteur un petit peu misérabiliste, bah pas du tout, puisque de là, de toutes ces angoisses, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle découvre, bah elle va rentrer finalement par des moyens assez originaux dans un système de multivers, donc de multiverse, comme on dit c'est chez Spider-Man et chez Marvel. Donc on va reprendre un peu la même logique, mais en beaucoup plus aboutie, je suis bien obligé de l'avouer. Et elle va découvrir finalement ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. Elle va acquérir des capacités des autres, elle, d'autres dimensions. Elle va évoluer là-dedans, elle va rencontrer des vilains, des bad guys, des bad girls, etc. Et finalement, bah, c'est tout ça, c'est un énorme prétexte pour développer un milliard d'idées qui sont toutes barrées les plus barrées les unes que les autres. C'est hyper bien fait, il y a 1000 idées à la minute, c'est incroyable, on a l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage, 2000 tours en minute, ça n'arrête pas, ça laisse pas une seconde de répit, il y a des manières de passer d'une dimension à une autre, des rencontres qu'elle va faire, les autres personnalités qu'elle va rencontrer, les vilains qu'elle affronte, tout est plein d'imagination. On est par contre dans un film à petit budget, je l'ai dit, hein, et du coup ça me permet de le dire aussi, parce que je suis un fan de Marvel, bah, c'est de l'anti-Marvel par excellence, et ça fait du bien, mais c'est pas étonnant au final aussi, vu que les deux réalisateurs, bah, ils ont eu à cœur, c'était un peu la démarche de proposer quelque chose de différent, et c'est un peu leur manière aussi de dénoncer un peu tout ça, le système hollywoodien, la méthode Marvel, etc., etc. Ils font pas mal référence dans leurs interviews, j'en ai lu quelques-unes, à Matrix 4 de Lana Wachowski, où ils évoquent leur admiration en fait pour le film en disant que c'est aller encore plus haut que ce que eux voulaient faire avec Everything Everywhere, qui les a devancés d'après eux, puisque c'était un peu leur but, c'était un peu de faire ça, c'était de secouer le cocotier. Ils le font très bien, c'est un film fou, qui est très long, il fait 2h19, bah là aussi ça fait un peu écho à Marvel finalement, des films très longs, mais par contre, on s'ennuie pas une seconde, malgré tout de même bah, quelques petites longueurs, il y en a évidemment, c'est difficile d'être complètement égal et homogène sur une telle durée, il y a beaucoup d'humour, il n'est pas toujours très fin, ça va dépendre un peu des types d'humour, ça couvre un peu tous les champs humoristiques, il va y avoir du pipi caca, moi je suis moyen fan, mais il y a des choses aussi beaucoup plus fines et beaucoup plus drôles à mon sens, et il y a aussi bah voilà des situations incroyables, et je pense évidemment, et je vais conclure là-dessus, à la fameuse scène des cailloux qui est totalement hilarante, et vous verrez quand vous verrez la scène des cailloux que c'est impossible de ne pas exploser de rire au bout de quelques secondes de cette scène. Toute la salle, quand je suis allé le voir, était explosée de rire, on était limite à se rouler par terre, et surtout, énorme qualité d'Everything Everywhere, et c'est vraiment important de le signaler, parce que personnellement, ça fait quelques mois que je souffre un peu de ça, la salle était pleine. Elle était pleine à craquer de gens sur un film à tout petit budget, alors que ça fait un paquet de semaines, de mois que je vais au cinéma voir des films qui ont des budgets beaucoup plus importants et dans des salles à trois quarts vides. Donc voilà, ça fait juste du bien.
Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir le cinéma indé en bonne santé. On peut peut-être aussi dire quelque chose de la recette au box-office, hein, plus de 100 millions de dollars. C'est un record pour un film A24. A24, c'est la société de production. Et il faut en parler parce que c'est quand même une société de production qui fait des films, qui porte à bout de bras le ciné indépendant américain. Il n'y a pas que eux, hein, mais moi, j'adore leurs films. C'est eux qui ont fait Uncut Gem, que j'adore.
Ah oui, excellent. Je ne savais pas que c'était
sur
eux.
Sur Netflix, d'ailleurs. C'est eux qui ont fait ça et ils ont également fait Moonlight il y a quelques années, hein, ça date un peu. Moonlight, très très bon film aussi. Enfin, j'aime bien tous leurs films et je pense que là, je vais pas y couper.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Kevin, mais absolument pas d'accord avec Woodgold parce que j'ai vu Nope moi aussi. Charlie Boy, t'oublies complètement de me donner la parole, t'es pas du tout organisé. Ou alors t'essaies de me couper, de me faire taire, mais je vais le dire. Non, alors je vais d'abord finir sur Everything Everywhere All at Once. Non, complètement d'accord avec Kevin, c'est un ovni mais génial. Moi c'est ce que j'attends du cinéma. Donc je regarde ça avec des yeux d'enfant, mais c'est extraordinaire. Et puis il y a Michelle Yeoh dedans qui est juste géniale. Elle a 60 ans et elle fait encore des trucs incroyables en termes de kung-fu. C'est fou, vraiment c'est incroyable. Donc moi aussi pareil, je conseille vivement ce film. Après je concède, pour l'avoir vu avec mon amoureuse qui est pas du tout entrée dedans, je concède que c'est pas facile forcément d'apprécier ce film si t'es pas cinéphile. En fait, je pense que si t'es pas cinéphile, je suis pas sûr qu'il parle à tout le monde. C'est un peu mon voilà, mais après on s'en fout. Et non, Nope, pas du tout d'accord. Woodgold, enfin pas du tout d'accord. En vrai, c'est pas vrai, mais le film dure 2h10. Mmh. Tu te fais chier pendant une heure. Mmh. La première heure, c'est terrible. Ah ouais. Il se passe vraiment, vraiment pas grand chose. C'est très, très long. Voilà, il y a des choses qui sont incompréhensibles dans ce film. Il y a des flashbacks qui ne servent à rien, à rien. Ou alors j'ai raté un truc. Il y a des personnages qui essaient de développer par des flashbacks, mais ça sert à rien. Vraiment, ça n'apporte rien au récit et aux personnages. Donc c'est un peu dommage. Je pense que si le film durait une heure et demie, c'est un peu le problème des films ces dernières années à mes yeux, c'est qu'on veut que ça dure 2 heures au moins 2 heures. Et du coup, tu forces l'écriture, tu rajoutes des choses qui servent à rien, et le film aurait été vachement plus efficace s'il avait été beaucoup plus... il aurait été plus nerveux s'il avait été plus court, s'il était allé droit au but. Et c'est un film d'horreur qui fait pas peur. Hein. N'ayez pas peur d'aller le voir, parce que vous n'aurez pas peur. Par contre, il y a des choses intéressantes. Au bout d'une heure, ça devient cool, ça devient chouette, ça devient cinéphile, pour le coup. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a une heure.
Et peut-être que tu n'es pas sensible au cinéma de Jordan Peele. Peut-être que est-ce que tu avais vu Get Out et Us? Est-ce que tu les avais bien aimés?
Ouais, complètement. Ouais. J'avais beaucoup aimé Get Out. Ouais. Us un peu moins, mais Get Out, j'avais vraiment beaucoup aimé.
Bah petite dissension au sein de l'équipe. Problème de rythme pour les uns.
Non.
Bon film pour les autres. Non, toi t'es plutôt. Tu partages aussi Woodgold.
Ben, il y a le réalisateur, enfin, en effet, le réalisateur prend son temps pour exposer, pour présenter les personnages, mais je trouve que ça sert à la caractérisation des personnages, justement, de prendre son temps. Et moi, je crois qu'en vieillissant, j'aime de plus en plus les films qui aiment prendre leur temps, même si, en effet, il se passe pas 36 000 choses, mais ça installe une ambiance. Ça détaille l'activité de certains personnages. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que ça a plutôt servi le film. Mais après, je peux comprendre en effet que oui, qu'il y ait quelques longueurs.
Le souci que j'ai avec ces films-là, c'est qu'en fait, c'est pas une écriture de cinéma. On est sur une écriture de série. En fait, on est tellement habitué. Ok, il faut développer les personnages très longtemps et tout ça, mais ça sert pas le récit. En vérité, sur 2h10, 2h20, ça ne sert mm-hmm. pas le récit. C'est pour ça, en fait. Pour moi, un film, il doit aller au droit au but. Il faut que tout ait du sens, tout soit interconnecté, quoi. comme dans Everything Everywhere All at Once. Des fois, tu dis, mais où ils vont? Et puis, hop, d'un coup, hop, c'est connecté. Ah, ok, ça avait du sens. Là, j'ai trouvé que dans Nope, on était sur une écriture un peu trop série. Et du coup, il y a des choses qui servent, à mes yeux, en tout cas, à rien.
Oui. Mais je suis un peu d'accord avec toi, écoute. Ouais.
Ça aura le mérite d'être clair. Un film qui va peut-être mettre tout le monde d'accord, quoique j'en sais rien, mais un film que Yavin a vu, que Woodgall a vu, que j'ai vu. Je vais pas dire le titre, je vais simplement vous passer la bande-annonce.
Je m'appelle Alethea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parent. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir.
Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus?
J'aurais une question. Que peut-on faire avec 3 vœux?
Vous verrez.
Et voilà, c'était la bande-annonce, vous avez reconnu, de 3000 ans à t'attendre, 3000 years of longing en anglais, je l'ai un peu raté, donc avec Tilda Swinton, Idris Elba, le nouveau film de George Miller. On va en discuter parce qu'on est plusieurs à l'avoir vu ici, mais avant ça, un petit résumé. Alors là, je voulais vous passer la bande-annonce parce qu'elle explique un petit peu, elle explique mieux que moi de quoi va parler le film. On a donc Alethea, qui est donc incarnée par Tilda Swinton, bien que satisfaite par sa vie, elle est narratologue, elle fait un métier sympa. En fait, son métier, c'est d'étudier les contes et elle donne des conférences à travers le monde. Elle a un regard très sceptique sur le monde, sur les mythologies, etc. Mais un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. 7 ans après Mad Max Fury Road, George Miller est en fin de retour avec 3000 ans à t'attendre. Alors c'est un long métrage moins enragé que son prédécesseur, mais tout aussi ambitieux, à travers lequel le cinéaste déploie une nouvelle fois ses talents de conteur, parce que c'est vraiment un film de conte. C'est un film déjà sur les contes et qui, dans sa forme, est lui-même un conte. Certaines critiques parlaient d'œuvres mystiques et stimulantes. Pour moi, c'est tout à fait ça. C'est stimulant. C'est un film dont on sort pas indifférent. La preuve, on est sorti de la salle, on savait pas vraiment quoi en penser. On était pas sûr si on avait aimé ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le duo de choc formé par Tilda Swinton et Idris Elba marche super bien à l'écran. Donc c'est Idris Elba qui va jouer donc le génie. Elle va trouver une lampe dans un bazar d'Istanbul et Idris Elba sort. Et en fait, on a quasiment une unité d'espace puisque c'est un huis clos qui va se dérouler quasiment intégralement dans la chambre d'hôtel de d'Alethea. Et on est vraiment à l'extrême inverse de Mad Max Fury Road, du même réalisateur. Puisque là, Fury Road, c'était entièrement en extérieur, là, c'est tout en intérieur. Et là, on a affaire à un film très bavard. C'est quasiment... on a quasiment l'impression d'assister à une psychanalyse entre un patient et sa thérapeute. Donc c'est très bavard, ça parle beaucoup, c'est un conte. Donc évidemment, on reste pas dans la chambre d'hôtel tout le temps, puisque le tout est ponctué de flashbacks durant lesquels le génie explique comment il est arrivé là, comment il s'est fait enfermer dans la lampe une fois, puis deux fois, etc. Enfin, je vais pas vous spoiler. Il retrace tout simplement ses origines jusqu'au roi Salomon. Et donc, d'où le titre, 3000 ans à t'attendre. Il explique en fait qu'il a passé, comment ça se fait qu'il a passé quasiment 3000 ans à attendre que quelqu'un le libère de sa bouteille. Le long métrage fourmille de folie visuelle. Alors c'est surtout ça. Enfin, c'est en tout cas c'est un des grands intérêts du film. C'est visuellement très novateur. Il y a 15 idées de mise en scène à la minute. C'est une vraie bouffée d'air frais. C'est un peu un ovni. Moi, je l'ai vu comme ça, on peut pas trop le comparer à autre chose, mais qui traite avec maîtrise de la puissance des histoires, de notre rapport à l'enchantement aussi, l'importance des symboles, des récits, des légendes. George Miller s'interroge sur la puissance des mythes dans un monde post-moderne, puisque vous allez voir à la fin, bah voilà, c'est aussi comment le génie interagit dans un monde voilà peuplé de, enfin rempli de technologies, de d'iPhone, etc. Est-ce qu'il y a toujours un intérêt pour un être comme celui-ci dans notre monde actuel? Je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai vu avec Yavin, j'ai déjà passé la parole à Yavin. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Ah bah merci de me passer la parole, et ça me permet de réagir à quelque chose que tu as dit sur le fait qu'on ne savait pas si on l'avait aimé ou pas, et moi j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'un film dont on ne sait pas si on l'aime ou pas, bah c'est un film qu'on a aimé. Donc voilà, j'en ai tiré ça, je me permets de faire cette cite de motocité, du coup, là-dessus. J'ai trouvé ce film vraiment hyper, hyper riche sur tous les aspects visuels et narratifs, et sans faire de mauvais jeu de mots, j'ai trouvé qu'il y avait un coup de génie dans le film. Finalement, c'est que tout au long du film, et ça, je vais un petit peu spoiler, mais c'est pas très grave, c'est que c'est un film qui parle des contes et qui parle des vœux à travers l'idée du concept même de génie et des vœux qu'on connaît bien. Et en fait, dans le film, on va passer tout le film à les attendre, les vœux. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très fort dans le film, en fait, c'est de jouer avec ça en permanence, de jouer du débat, des discussions entre Idris Elba, effectivement, et le personnage de la narratologue qui connaît extrêmement bien le concept des vœux, qui s'en méfie férocement, puisqu'elle le connaît, elle connaît le concept, elle sait que les vœux dans les contes, ce sont des avertissements, c'est des alertes sur l'avidité, c'est des alertes sur la cupidité, c'est des alertes sur la mégalomanie, ça sert à parler en fait de tout ça, le concept même de vœux, et donc forcément, elle se méfie énormément du génie. Alors évidemment, on dévoilera pas la fin, qui plaira pas en fait forcément à tout le monde, je pense, et moi j'ai un peu encore du mal avec cette fin, mais voilà, les gens se feront leur avis là-dessus. C'est un peu finalement comme Everything Everywhere, c'est un film qui est assez fou, qui est lui aussi assez méta, qui a cette qualité incroyable d'être assez long et on s'ennuie vraiment pas une minute, et pour le coup, pour bien le prouver, bah, je peux facilement le prouver, hein. On est trois à l'avoir vu ensemble après une longue journée de travail, on a vu le film sur une séance qui était à 22h et personne ne s'est endormi, j'ai vérifié,
c'est clair,
la séance, personne du tout
ne s'est endormi. C'est clair, on était scotchés à nos fauteuils.
Ah ouais.
Et toi Woodgall aussi, est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que tu en as pensé la même chose que Yavin?
Moi, c'est vrai que dès que le film s'est terminé, j'ai pas su dire si j'avais aimé, pas aimé. J'ai pas su. C'était compliqué, quoi. Et moi, quand ça me fait ça, c'est où je dois digérer le film quelque temps, ou je dois le revoir une deuxième fois, voire une troisième fois. Et je pense que pour ce film, en fait, j'ai plutôt envie de le revoir une deuxième fois. Alors, j'ai un peu avancé dans mon dans ma réflexion, hein. C'est un film que j'ai que j'ai aimé, mais que j'ai eu à digérer un petit peu. Mais je rejoins Yavin, hein, c'est une réussite. Il y a pas mal de fulgurances visuelles au niveau de la réalisation. Les deux acteurs sont très bons, Idris Elba, ouais, et Tilda Swinton. Le duo fonctionne bien, hein, ce sont de très bons acteurs. La fin ne m'a pas trop dérangé, et puis voilà, on se laisse embarquer et on prend plaisir à voyager dans les souvenirs de ce génie, notamment toute la partie, je sais pas si c'est spoilé de dire ça, mais qui se déroule à Constantinople, donc, que j'ai plutôt aimé, donc c'est pas vraiment un spoil. Donc je conseille de le voir. Complètement. Foncez. Messieurs, dames.
Eh ben oui, foncez. Et pour info, j'avoue que la bande-annonce, en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, mais la bande-annonce n'est pas vraiment représentative du film. On s'attend à un film avec un montage très serré,
clairement,
très rock, un peu frénétique. On laisse entendre que le principal enjeu du film, c'est c'est quoi les vœux qu'elle va choisir.
Oui.
Alors qu'en fait, le film il oublie très vite ces problématiques-là, et on est plutôt dans une rêverie avec des... En fait, chaque scène est comme un tableau, c'est très très beau, en fait. Et c'est pas forcément le film frénétique que la bande-annonce laisse penser. Mm-hmm. Eh ben, écoutez, du coup, foncez, voir 3000 ans à t'attendre. Laissez-vous rêver, laissez place à l'enchantement. Voilà ce qu'on peut dire sur le dernier George Miller. Allez, merci messieurs, on va passer à la suite. Très bien messieurs, alors rappel des scores pour le quiz, hein, le quiz spécial ciné. On avait un point pour Sombre Nerd, bravo pour Mortal Kombat. On avait un point pour Yavin, qui a honteusement volé la réponse de Woodgall. Mais bon, Woodgall
ça compte quand même.
A admis sa défaite. Et c'est parti pour le deuxième extrait cinéma de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vous préviens déjà, c'est en anglais. Et c'est le bordel. Donc, okay. C'est une des scènes finales d'un film. C'est parti.
C'est Pulp Fiction, non?
Oh, il a trouvé, il est trop fort. Pulp Fiction, c'était, bah oui, la scène finale, hein, dans laquelle Samuel Jackson va rencontrer Tim Ross, sa femme, dans le diner. Un morceau, enfin un extrait intitulé « Bitch be cool », où il essaye de faire en sorte que ça ne finisse pas dans un bain de sang. Et ben, ça fait un deuxième point pour toi, son bonheur. T'es en forme, hein, je te sens bien ce soir. Hein.
Ouais, mais c'est que des films que j'ai vus et que j'adore.
Ah ben voilà. Et, et ouais, c'est un de mes extraits préférés de Pulp Fiction. Hein. J'adore cette scène finale. Et ben, sans plus d'intermission, on va passer à la suite. Je crois que on avait un film que tu as vu, Sombre Nerd, au titre un petit peu mystérieux, qui s'appelle The Grey Man. Mais de quoi ça parle?
Ouais, l'homme gris, c'est en effet un problème, c'est quelqu'un qui a des problèmes de peau. Et tout le film, on raconte comment il va guérir. Non, pas du tout. The Grey Man, okay. C'est le film trop chiant, tu vois. Où tu suis sans dermato pour trouver la solution. Imagine le truc horrible.
Il travaillait avec des chimistes et tout qui mettent au point des.
Mon Dieu. Non, The Grey Man, c'est un film Netflix hein, qui est sorti en août, je crois, ou peut-être juillet. En tout cas, cet été, avec Ryan Gosling. Bien entendu, c'est fait par Joe Russo et Anthony Russo, je le dis en français, donc les fameux réalisateurs de l'univers Marvel, hein, donc les Avengers, entre autres. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que c'était chiant. En gros, bon, la CIA recrute un mec qui est en prison pour devenir un tueur, et quelques années après, tu le vois... en action, il doit tuer un autre tueur, et en gros tu vois qu'il y a un gros complot dans la CIA, pour faire très court, et okay. La CIA, pour essayer de se débarrasser de Ryan Gosling, va faire appel à un méchant psychopathe vraiment, qui est joué par Chris Evans, et voilà, ils vont passer le film à courir après Ryan Gosling, et voilà. Et non, c'est vraiment pas très très bien. Je sais pas du tout si vous l'avez vu, si vous êtes pris, vous avez pris le temps de, si vous avez perdu le temps de regarder ce film. Mais
non, j'avoue que ça me disait pas trop en fait.
Pareil. Eh ben, vous avez bien fait. En fait, il y a plusieurs problèmes. D'abord, le problème, un gros problème d'écriture du film, c'est pas malin, c'est extrêmement convenu. Et voilà, c'est très bien calibré, c'est très bien produit, c'est ce que sait faire Netflix, ce que fait très bien Apple aussi, donc des choses très bien calibrées, très bien produites. Et là où ça devient intéressant, c'est quand ça sort un peu du lot, ce que sait faire un peu Apple, mais pas partout. Et parfois, bah, on reste sur du cinéma où on prend aucun risque, ce que sait très bien faire Netflix, et du coup, bah, c'est pas très très intéressant. Donc... vraiment, je le conseille pas. Et en plus, bon, voilà, Ryan Gosling, moi, j'ai vraiment du mal avec lui. Je trouve qu'il est, c'est pas du tout un grand acteur. Il dégage rien, il est tellement fade. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était très bien dans le Blade Runner de Villeneuve, qui est lui aussi un réalisateur qui fait du beau très fade. Et du coup, ça allait très bien dans le film.
Ça critique. Et ben, figure-toi qu'il y a des gens qui sont sensibles au côté monolithique de Ryan Gosling. Moi, j'aime bien son côté inexpressif.
Et de Villeneuve.
Et j'adore Denis Villeneuve. Donc, mais je comprends qu'on soit pas tous fans. Et du coup, le duo, enfin, cette espèce de face à face avec Chris Evans, a pas forcément un grand intérêt, c'est ça?
En fait, bah, Chris Evans, il s'en sort plutôt pas mal. Bon, il cabotine, mais ça lui va, mais voilà, parfois c'est rigolo, mais en fait, c'est un acteur qui dégage une telle sympathie, Enfin, en tout cas, il me dégage beaucoup de sympathie. J'ai du mal à l'imaginer en psychopathe violent et tout. Du coup, je suis pas trop entré dans son personnage. Ouais, il fait ce qu'il peut. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il y a Ana de Armas, dedans, et une actrice qui commence à faire un petit bout de chemin à Hollywood là, et qui elle, bah, elle est toujours très pétillante, elle est toujours très juste. Je l'avais beaucoup aimée dans le dernier James Bond. Donc elle est elle, voilà. Mais bon, ça, on regarde pas un film pour juste pour elle, quoi. Voilà, donc c'était mon retour sur The Grey Man. Gagner 2h20 de votre vie ou 2h30, c'est aussi très long, quoi.
Ok, The Grey Man, donc on n'ira pas le voir, ou alors par curiosité pour te contredire. Eh ben, merci Sombre Nerd pour cette review express. On va passer maintenant. Ah oui, pardon, Yavin, dis-moi.
Ouais, j'ai juste un petit truc à faire remarquer qu'on n'a pas dit en fait tout à l'heure. Les deux frères Russo, donc effectivement, qui ont été très impliqués dans l'univers Marvel, dans les Captain America et dans Civil War, sont aussi à la production des Everything, Everywhere, All at Once.
Donc, c'est vrai.
On parlait tout à l'heure, c'était juste pour le préciser, ils sont aussi producteurs de celui-là.
Ok, donc, ok, ben merci. On va parler maintenant, je crois, hein, d'un film franco-espagnol. Qu'est-ce que c'est que ce film franco-espagnol? Eh ben, c'est Woodgall qui va s'y coller. Et je crois que ça s'appelle Asbestas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Asbestas.
D'accord. Oui, il est en train de faire une sieste, mais c'est bon, il est avec nous.
Il s'était remis nope et il s'est endormi devant.
C'est ça. Asbestas. Qui veut dire, ça veut dire quoi d'ailleurs?
Ah.
Comme, mais je sais pas en fait, j'ai eu deux traductions. Donc,
je sais pas.
Comme des bêtes ou, non, c'est pas ça. Ou on est les meilleurs, il faudra rechercher. C'est pas important.
Voilà. Travaille ta chronique la prochaine fois.
C'est pas important. Donc, Asbestas. Tout à fait. Film donc d'un certain Rodrigo Sorogoyen ou Sorogoyen, je sais pas comment on dit. C'est un madrilène, un réalisateur espagnol, n'est-ce pas? Un film donc sorti cet été et qui reste pour moi la claque un petit peu. Ma claque de 2022, un film qui m'a marqué. C'est un réalisateur qui s'était fait connaître, je sais pas si ça vous parle. Oui, pardon.
Non, pardon, vas-y, excuse-moi.
2022. Ouais. Non, je disais, c'est un réalisateur, qui a fait une série sur les violences policières qui s'appelle Antidisturbios, diffusée sur Canal+. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu de très bonnes critiques. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a donné envie de le voir. Parce que du monsieur, je n'ai vu que ce film, Asbestas. Asbestas, donc, ça parle de quoi? C'est tout simplement un couple de Français qui s'installe en Galice, interprété donc par Marina Foïs, Olga, Marina Foïs, je sais pas, je pense que vous voyez qui c'est, les Robins des Bois, Police, et qui a joué dernièrement.
Bien sûr.
Bien entendu, dans Barbac, avec Fabrice Eboué.
Ah oui.
Je sais pas si vous l'avez vu passer, ce film, bon bref. Et, Denis Ménochet.
Pas vu.
Antoine, donc, pas vu non plus, ouais. Qui joue donc son mari, Antoine, acteur français, vu notamment dans Jusqu'à la Garde. Voilà. Donc, ils s'installent en Galice pour se relancer dans la culture maraîchère biologique, hein, pour créer leur ferme, tout simplement. Ils arrivent donc dans un village, le village dans lequel ils sont, ils participent donc à la rénovation des maisons qui sont complètement détruites. Mais ce village-là qui est complètement détruit, parce que eux, leur but, c'est de réhabiliter les maisons pour faire venir des gens et redonner un soufflet de la vie à ce village, redynamiser un peu le territoire, hein, en faisant voilà. Mais ces maisons auraient pu se faire raser par des éoliennes, permettant donc aux locaux. Donc l'entreprise arrive, donne de l'argent aux locaux pour les faire partir. Et donc ça permet aux locaux, si vous voulez, les locaux, c'est un peu des, on est dans le côté un peu miséreux, un peu, enfin c'est des paysans mais qui ont pas beaucoup d'argent, quoi. Donc ça leur permettrait comme ça de s'extirper en quelque sorte de leur un peu de leur condition de pauvres paysans. Sauf que le couple de Français, notamment Antoine, hein, refuse le fait que les entreprises installent leurs éoliennes et ça provoque donc, je vous le donne en mille, la colère de leurs voisins, joué notamment par Xan, joué par l'acteur Luis Zaya, qui est très bon. Et son frère Lorenzo, joué par Diego Anido. très bons acteurs. Donc ces deux voisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont les harceler, les menacer, tout faire pour les dégoûter de là où ils sont, hein, pour les faire partir, notamment, enfin exclusivement, on va dire. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire du film. Et pourquoi j'ai aimé? Bah, si vous aimez un peu les thrillers ruraux, un peu en mode chien de paille, par exemple avec Dustin Hoffman, ce genre de film, ce film est fait pour vous. On est face à une réalisation qui est assez léchée. Et des acteurs très bons. Ça parle de racisme entre guillemets anti-français, mais sans vraiment en parler. Il y a des scènes de tension dans le bar du village où le français, donc joué par Antoine, qui parle espagnol, qui comprend l'espagnol, se fait un petit peu houspiller de loin comme ça. On sent la tension graduelle monter petit à petit. C'est pas un film où il y a beaucoup de violence physique. Mais la violence verbale est bien présente et c'est en ça que c'est un thriller et que la tension monte petit à petit. Et les acteurs, je le répète, sont très très bons. Il y a une rupture au milieu du film qui fait écho à la première scène. Voilà, bon, pour pas spoiler, je vais pas forcément trop vous en parler, mais ça marque la fracture avec une deuxième partie du film. Et ça aussi, ça redonne de l'intérêt au film. Il y a un nouveau personnage aussi qui arrive à partir de la deuxième partie du film. Donc, on ne s'ennuie pas et on est vraiment happé dans cette histoire. On est dans le quotidien du couple et on voit, voilà, on les accompagne dans ce combat. Et on ne sait pas, ça peut très mal finir, mais j'en dis pas plus. Voilà.
C'est un film avec de la tension, alors. Hein. On a bien
c'est
compris.
C'est
hein.
Beaucoup de tension. On sort du film, on est tendu, ouais, très tendu. Mais c'est très réussi pour ouais. Ça.
Et tu disais que les acteurs sont très bons. Marina Foïs, on la connaît. Denis Ménochet, je viens de me rappeler, c'est l'acteur qu'on voit au début dans la scène d'intro d'Inglourious Basterd, quand Christophe Valls va voir un paysan, justement.
Oui.
Et qu'il commence à lui parler en français. Elle est génialissime, cette scène.
Ouais.
Il commence à lui parler en français. Ensuite, il switch en anglais pour pas que les gens cachés sous le plancher comprennent.
Ouais.
C'est vraiment... c'est la seule... Je crois que c'est le seul film dans lequel j'ai vu cet acteur-là. Mais oui, il a une certaine présence, c'est clair. Écoute, du coup, tu recommandes seulement Asbestas.
Je recommande Asbestas, oui. J'aurais tendance à plus le recommander que Nope, même si je vous conseille d'aller voir les deux. Mais Asbestas reste mon gros coup de cœur de l'été, en tout cas, oui.
Et c'est au ciné en ce moment ou c'est sur...
Alors, Asbestas, je pense qu'il est encore dans certaines salles. Oui. Vu le succès du film, il doit être encore dans certaines salles. Pourtant, le film est sorti fin juillet 2022, hein, mais il est encore visible dans certaines salles. Donc, gros succès.
Dépêchez-vous alors.
Et si vous écoutez ce podcast en 2027, ne tenez pas compte de ce qu'il dit.
C'est ça.
Oui, il n'est plus dans les salles obscures. Hein, si... Ok, bah, merci beaucoup, Woodgall. Ouais. Ça donne envie. En parlant de film qui est à l'affiche depuis juillet et qui est toujours en salle à cause de son succès, grâce à son succès, moi je voulais vous parler d'un film français qui s'appelle La Nuit du 12. Est-ce que vous avez entendu parler de La Nuit du 12, messieurs ?
Pas du tout.
Oui, pas vu, pas mais j'en ai entendu parler.
Oui, tu as entendu parler. Tu m'en as parlé.
Il a eu. D'accord. il a beaucoup. Non, mais mine de rien, il a fait du bruit ce film. Il a eu beaucoup un beau succès critique déjà. Et puis le public a pas mal suivi. Donc ça fait plaisir. Il s'agit d'un film de Dominique Moll à qui on doit Harry, un ami qui vous veut du bien, entre autres. Hein. Qui était un de ses premiers films. Et donc, c'est un film avec Bastien Bouillon. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bastien Bouillon, qui a fait beaucoup de second rôle au cinéma. Là, il tient vraiment le premier rôle, dans le rôle d'un flic. Je crois que c'est le capitaine ou de sa brigade. Et Bully Lanners. Excellent, hein, le grand Bully Lanners, acteur belge que j'adore, hein, qui est toujours très très bon. De quoi ça parle, La Nuit du 12? Eh bien, la nuit du 12 octobre 2016, les inspecteurs de la PJ de Grenoble fêtent le départ à la retraite de leur chef. Et c'est donc Johan Vives, interprété par Bastien Bouillon, qui va reprendre son poste de chef. Cette même nuit, à Saint-Jean de Maurienne. Oui, parce que la Savoie est très représentée dans ce film, et les petits patelins comme ça, c'est un peu un film sur les petits patelins. Clara Royer, 21 ans, quitte la maison dans laquelle elle participait à une soirée entre amis pour rentrer chez elle. Sur le chemin, elle rencontre un homme qui l'asperge d'essence et lui met le feu. C'est la PJ de Grenoble qui se voit confier l'enquête, bien sûr. Après avoir identifié la victime et prévenu ses proches, ils font avec l'aide de sa meilleure amie la liste des hommes que fréquentait la victime et commencent à les interroger. Donc oui, c'est une enquête, c'est un polar. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est en tout cas largement inspiré de faits réels. Et surtout, c'est une affaire non élucidée. Et ça, on nous prévient dès le début, dès le crédit du début du film. On nous interpelle d'ailleurs sur le fait que en France, tous les ans, je crois, il y a environ 20% des cas d'homicide qui sont jamais élucidés. Et c'est ça tout le drame de ce film, parce que on a beau savoir dès le début que la police n'a jamais attrapé le coupable, que on ne sait pas qui a fait le coup. Même si on le sait, on est quand même vraiment dégoûté à la fin, ça je vous l'assure. C'est un film dont on sort marqué. C'est vraiment un film désespérant qui est un grand film sur les féminicides. Hein. Et c'est surtout un polar, comme j'ai dit, désespérant. C'est porté merveilleusement par Bastien Bouillon et Bully Lanners dans le rôle du flic intègre et d'un côté et du flic idéaliste de l'autre. Et pour moi, la Dominique Moll signe un des meilleurs polars français de ces dernières années. Donc voilà, c'est un film percutant, efficace, tout en retenue. Hein, c'est un film très sobre et on n'en sort pas indemne. Vraiment, voyez-le s'il est encore à l'affiche près de chez vous. La nuit du 12, ça vaut le coup. Ça vous retourne. On partage en fait la colère de ces flics qui évidemment veulent tout faire pour élucider un crime et une injustice incroyable. C'est quand même une femme qui se fait brûler vive. Ils n'ont pas choisi ce cas-là puisque c'est inspiré de faits réels. Ils l'ont pas choisi au hasard parce qu'il y a toute une symbolique sur les femmes brûlées, sur les violences faites aux femmes, la chasse aux sorcières, etc. Et puis le rapport à la sexualité des femmes qui est interrogé aussi. Comment dans un monde d'hommes on voit et on juge la sexualité des femmes. Donc voilà, vraiment très 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 beau film qui pose plein de questions. Et ouais, je vous enjoins à aller le voir si vous le trouvez près de chez vous. Messieurs, est-ce que ça vous donne envie? et si vous avez aimé, c'est Dominique Moll, hein, si vous avez aimé Harry, un ami qui vous veut du bien, hein, on reste dans cette tradition d'un film tout en retenue, qui en fait pas des caisses, mais justement c'est ça qui crée la tension, qui crée le suspense. J'aime vraiment beaucoup ce style. Donc voilà. Et là-dessus, on va passer au dernier quiz de la soirée. Et oui, rappel des scores, on a 2 points pour Sombre Nerd, on a 1 point pour Woodgall, et on a, allez, on va dire 0,5. Oh, pardon, 1 point pour Yavin. Oh là, il s'est même pas plaint.
Je ne me plains jamais. Jamais.
Ben non, je voulais te corriger, tout à fait.
Ah oui, ben oui, 1 point pour Yavin et Woodgall qui s'est fait, on peut le dire, hein, qui s'est fait avoir sur ce coup-là. Mais tu peux revenir à égalité avec ce nouvel extrait musical. Là encore, hein, réplique culte d'un film que je pense vous avez vu. C'est parti.
C'est surtout qu'on peut pas la faire sans. La coque et les putes, mon pote.
Je vois. Je dois vous avouer que je suis incroyablement excité de faire partie de votre équipe. C'est vrai, les clients que vous avez sont absolument...
J'emmerde les clients.
Le loup de Wall Street ?
J'emmerde les clients, et oui, le loup de Wall Street. Bien joué, son bonheur, et voilà, c'est un quasi sans faute. Hein. Bravo, grand vainqueur de la soirée. Et oui, c'est la scène d'intro. Non, c'est pas la scène d'intro, mais c'est une scène qui intervient vers le début du film. Entre Leonardo DiCaprio Matthew McConaughey, exactement, dans le rôle, hein, du trader drogué, voilà, avec qui il a vraiment un rôle excellent avec ce passage à mourir de rire où il se met à chanter, etc. Il est toujours très détendu. Donc voilà, ça fait 3 points pour Sombrenner. Bah bien joué, écoute.
Mais merci.
Tu auras gagné une pizza la prochaine
c'est
fois.
Vrai, cool.
Et comme tu as gagné, écoute, ça peut se négocier. comme tu as gagné, ben, je vais te laisser l'honneur. Je crois que tu voulais nous parler du grand retour de Stallone.
Eh oui.
On sait que tu es un grand fan, hein, un grand fan de Mortal Kombat et de Stallone. On commence à mieux te cerner. voilà. À toi.
Eh bien, je te remercie pour cette introduction. Ça me fait vraiment plaisir. salaud. ouais, non, ben, voilà, ben, c'est, il fallait parler de films qui sont sortis récemment et, voilà, j'ai vu Everything Everywhere All at Once, j'ai vu Nope, j'ai vu Gray Man, je regrette. Et puis bon, mais Stallone, c'est vrai que je l'aime bien. Ça fait partie de ces acteurs avec lesquels j'ai grandi. Alors en effet, je suis bien conscient qu'il a fait beaucoup de daubes. Mais voilà, Rocky, Rambo, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement intéressant cinématographiquement. Et voilà, j'ai un peu de sympathie pour l'ami Sly. Alors bon, je regarde tous ses films. Pas toujours avec beaucoup de plaisir. Et en effet, son dernier film qui s'appelle Le Samaritain, qui est donc sorti directement sur Amazon Prime Video, qui est un film qui est réalisé par Julius Avery. Donc du coup, ça m'intéressait parce que c'est le réalisateur du film Overlord, qui est un film de zombies qui se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant ou après, je sais plus le débarquement. C'est des paras qui sont balancés en Normandie et ils tombent sur un labo nazi, ils font des expériences, voilà. C'est assez cool, Overlord, à regarder, je conseille. Donc voilà, j'étais plutôt bien parti pour regarder ce film. Et, en gros, Stallone, il joue un personnage, dont on pense qu'il serait un super-héros. dont on sait qu'il est un super-héros d'ailleurs, puisqu'on l'apprend dès le début. Et, qui en fait, ça se passe à une époque qui ressemble tout à fait à la nôtre, mais peut-être au début des années 2000. Et en gros, il y a eu deux frères jumeaux qui ont été, qui avaient des super pouvoirs. L'un était méchant, l'autre était gentil. Voilà. Et ils sont morts. Et on apprend ça au début. Et il y a un enfant qui est persuadé que le gentil est toujours vivant. Il y a plein de théories comme ça qui circulent partout, comme quoi le gentil super-héros est toujours vivant. Et il est persuadé que c'est Stallone. Et du coup, bah, Stallone, il va se rapprocher de cet enfant. Donc, il y a vraiment la symbolique un peu du père de substitution, parce que c'est un enfant qui vit juste avec sa mère célibataire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce qui me faisait peur. J'avais peur qu'on tombe dans le pathos avec cette relation-là. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt bien traité, mais bon, voilà, ça va pas non plus très très loin. Le film cherche à être critique, donc c'est vraiment un film de super-héros en réalité, donc il rajoute un peu de critique sociale, mais bon, ça va pas assez loin, c'est un peu raté, c'est un peu naïf pour le dire comme ça. Et donc du coup il y a un méchant qui veut libérer les pauvres, bien entendu, et il y a ce personnage joué par Stallone, au passé complexe. C'est une série B, c'est plutôt honnête, mais c'est extrêmement convenu. C'est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, j'avais compris en fait ce qui allait se passer. Et j'avais compris, je vais pas évidemment le dévoiler, mais voilà, il se passe quelque chose et je l'ai vu venir. Du coup, bon, ben, je me suis dit, c'est raté. Et du coup, j'ai dit à mon amoureux, je lui ai dit, ah, j'ai compris ce qui va se passer. Elle me fait, non, je l'ai noté sur mon téléphone. Et quand ça s'est passé, je lui ai montré. Donc c'est voilà, c'est vraiment extrêmement convenu. C'est trop attendu, c'est vraiment dommage. Et voilà, du coup, on attend que... Moi, j'ai attendu tout le film que les gens comprennent ce que j'avais compris. Donc, c'est un peu raté au niveau d'écriture. Après, il y a quand même beaucoup de volonté dans ce film, c'est-à-dire qu'ils ont envie de créer toute une mythologie autour de ces super-héros. Mais ça manque un peu de fond. C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez Marvel, évidemment, ils ont un fond énorme autour de leur mythologie qui a été créée. Ils ont eu le temps de le faire avec tous ces films. Et même quand ils faisaient les premiers films, ils arrivaient quand même... On peut dire ce qu'on veut sur Marvel, ils arrivaient quand même à créer leurs super-héros et à installer déjà une vraie mythologie autour, et on rentrait vite dedans. Là, pour ce film, Le Samaritain, ça marche pas très bien, c'est un peu dommage, c'est un peu ce qui fait défaut à ce film, parce que c'est ce qu'on attend. Pour moi, ça va pas assez loin. Voilà. C'est une série B honnête, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je sais pas si je peux le... En vrai, non, je le conseille pas. Si vous aimez Stallone, oui, bah ça fait toujours plaisir de voir Stallone. il est toujours juste, en tout cas là il est juste, parce qu'il y a eu des films c'est pas toujours le cas, mais là en tout cas il est très juste, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Si vous avez envie de voir Stallone prochainement, il sera dans une série où il joue un mafieux. C'est une série très attendue, Tulsa King. Il y a la bande-annonce qui est sortie, ça arrive en novembre, un truc comme ça. Et là, ça sera peut-être plus intéressant que ce petit film qu'est Le Samaritain. Voilà.
C'est chez qui, Tulsa King?
Pardon?
C'est chez qui, Tulsa King, la plateforme?
Je me rappelle pas. Merci d'avoir posé la question.
Je savais qu'il n'avait pas la réponse, donc je me suis permis. Je me suis dit, allez, hop, mignon-le, c'est bon.
je ne sais pas, mais je peux essayer de trouver la réponse, bien sûr.
Non, mais en fait, t'as mieux vendu, finalement, t'as donné presque plus envie de regarder Tulsa King.
Ah si, mais c'est chez Paramount. Paramount Plus. Dur à voir, quoi. Je ne sais pas en France sur quoi ça va sortir, mais c'est sur Paramount Plus.
Okay. Ouais.
Ah oui. Un peu compliqué. Donc on a compris, hein, n'allez pas voir The Gray Man, n'allez pas voir Saint-Maritain, tous les films de sombre nerd, de toute façon, c'est de la daube, mais heureusement qu'il est là. Hein. Parce que, non mais ça a une utilité, il vous dit quand même quel film il ne faut pas aller voir, et ça c'est quand même hyper utile. Bah oui, tu rends service en faisant ça, et tu te sacrifies pour nous en allant c'est voir vrai, les films. qu'on hésite à voir.
Et maintenant, on sait pourquoi les salles de cinéma sont aux trois quarts vides. Écoute, sombre merde.
Ah bah non, mais s'ils nous ont écoutés ce soir, on va quand même remplir pas mal de salles de cinéma, j'espère. Surtout après ce dernier film, parce que je crois que c'est un grand oui pour toi, Yavin, quoique je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé de Prey?
Ah. On est plusieurs ici à l'avoir vu, je crois qu'on l'a peut-être même tous vu, non? Me semblant.
Tous sauf moi.
Ah, oui. Tous sauf toi, donc c'est pas tous. Allez, hein, du coup.
On lance le débat.
Déjà, pourquoi ne l'as-tu pas vu? On répondra à cette question après. Et voilà, parce que c'est scandaleux. Donc, Prey, film un peu aussi, une étrangeté de Disney+, qui avait surpris quand Disney l'a annoncé. Et surtout, que Disney s'est mis à faire des films un peu plus adultes et assume maintenant totalement ses prises de position. C'est un film qui est disponible depuis juillet, je crois, Prey, qui a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Dan Trachtenberg et qui était réalisateur sur 10 Cloverfield Lane, qu'on est beaucoup ici à avoir aimé. Et voilà. Et en fait, Prey, c'est quoi? Bah, c'est un film qui se passe dans l'univers de Predator. Bah, Sombre Nerd parlait de Stallone, icône des années 80. Bah, Predator était un film avec un peu son concurrent, hein, de l'époque, Arnold Schwarzenegger. Film qui a beaucoup marqué son époque. Et alors Predator, moi j'ai pas vu tous les films de la licence puisqu'il y en a eu énormément, enfin pas énormément mais il y en a eu quand même quelques-uns.
Et t'as bien fait.
Premier, voilà. Surtout comme tout le monde, bah je pense avoir été marqué par le premier avec Arnold Schwarzenegger, un film donc qui date des années 80, un film plein de gros muscles, plein de testostérone d'une autre époque. Et c'est bien ça en fait qui est intéressant dans Prey, puisque ça vous a sans doute pas échappé, en quelques décennies, les mentalités ont quelque peu évolué. On a un petit peu changé, heureusement, et au point de faire financer ce film, Prey, par Disney. Et film qui se déroule dans les années 1700, je crois, et qui va faire s'affronter bah, finalement une très jeune indienne et ce fameux Predator, donc qui va évidemment arriver avant les événements du film sorti dans les années 80, bien avant. Et évidemment, bah, autour d'elle, on n'a pas trop confiance, enfin les personnages autour d'elle n'ont pas trop confiance dans le principe même de la femme, dans le principe même de la femme qui doit affronter bah, évidemment bah, des hommes qui sont autour d'elle et que plus ces hommes en fait que la créature à proprement parler. Et c'est un peu finalement hein, tout le message du film qui est pas forcément exceptionnel, c'est pas une grande œuvre, on comprend aussi pourquoi il n'est pas forcément sorti au cinéma. C'est un très très bon moment de cinéma, c'est un beau message, on part aussi d'une vision de des choses qui étaient totalement différentes d'une époque pour en proposer quelque chose de beaucoup plus progressiste et de beaucoup plus moderne. On voit cette jeune fille indienne bah, se battre avec tous les éléments un peu toxiques qu'il y a autour d'elle pour arriver au combat final en fait contre le prédateur. Et ce qui est intéressant en fait, c'est toute l'évolution par rapport à ça et tout ce qu'elle doit combattre pour y arriver. C'est évidemment un film qui va être hyper inspirant bah, pour des petites filles, qui va être inspirant bah, pour plein de femmes et qui est inspirant finalement pour tout le monde et pour toute la société. Et ça correspond à la démarche de Disney qui va beaucoup là-dedans et qui en a fait des guidelines pour tous ces films. Pourquoi ris-tu, sombre nerd?
Parce que t'as dit c'est inspirant pour les petites filles, mais on conseille pas le film aux petites
ouais,
filles.
Ouais, moi aussi. J'ai... Ouais, bon, mais j'adore. Après, c'est...
C'est pas faux.
Un film inspirant pour les petites filles.
Après, c'est pas un film si gore que ça. Il est pas
ouais,
horrible
enfin,
à regarder.
Quand il défonce le... Ah, si, il y a des trucs violents. Avec le grizzly, quand c'est
oui,
extrêmement
voilà,
violent. Les bisons, tout complètement. Enfin, je vais pas tout raconter, mais bon, voilà, c'est comme violent.
Non, oui, ne mettez pas vos petits.
Il a changé.
Il a dit que c'était inspirant, tu vas regarder ça au lieu de regarder ton dessin animé. Donc, voilà. Faites attention. Mais regardez, Prey. Ouais. Qu'est-ce que les autres en ont pensé, puisque Sombrenner, du coup, tu l'as vu,
moi,
tu l'as
bien montré. Je vais ajouter un petit peu. Alors, c'est pas vraiment un film Disney. Faut faire attention. C'est un film 20th Century Fox qui est sorti chez Hulu. Alors, en France, c'est Disney+, mais c'est pas du tout Disney qui a, alors oui, indirectement, ils financent, bien sûr, via la 20th Century Fox, mais ça reste quand même très 20th Century Fox qui a envie de développer, Predator depuis longtemps et ils y arrivent pas parce qu'ils font de la merde, quoi. Et donc, en effet, en le sortant comme ça sur la plateforme, il y a un peu plus de liberté. Et en effet, la première des libertés, c'était de mettre cette femme au centre du film. Ils avaient essayé un petit peu dans le précédent, là, le film de Shane Black. Je ne me trompe pas de prénom, c'est ça, Shane Black, s'appelait le réalisateur, là. Mais avec Olivia Munn. Mais c'était pas vraiment, enfin, si c'était la personnage principal, mais elle était vraiment trop aidée par d'autres hommes, donc, voilà, on n'était pas sur un, c'était pas extrêmement féministe au final. Et là, ouais, c'est malin, c'est super chouette, mais encore une fois, c'est très bien fait. C'est, en effet, on attendait depuis longtemps un prédateur de ce niveau, mais c'est extrêmement convenu, quoi. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, on voit des lieux, on sait qu'on y reviendra, qu'il s'y passera quelque chose. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que voilà, ça c'est intéressant, mais ça prend pas assez de risques en termes d'écriture à mes yeux. Je sais pas ce qu'on pense. Woodgall.
Oui, alors Shane Black qu'on voit dans le premier Predator d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Il joue dans le premier Predator. Hein. Tout à fait. Bah moi, le reproche principal que je peux faire à ce film, c'est que c'est au final pas un film de cinéma. Mais un film de plateforme avec tout ce que ça peut entraîner derrière. Donc au final, j'ai pas trouvé que le film s'émancipait vraiment par rapport à au matériau de base, à la mythologie. C'est assez, oui, en effet, c'est assez convenu, même si on est à une autre époque, etc. Le côté voyage initiatique, un petit peu du personnage principal est intéressant. Par contre, moi, il y a des choses qui m'ont complètement fait sortir du film. Toute la partie, sans spoiler, mais à un moment donné, on voit des espèces de trappeurs français arriver dans le film, quoi, et qui parlent une espèce de, je sais pas, moi j'ai pas compris un seul dialogue de ces personnages et qu'on aille pas me dire que c'était du canadien, machin, tout ça.
Enfin, c'est ça.
C'est terrible. Non, c'est pas ça. Non. C'est des Français.
Pour moi, c'était les Acadiens de l'époque.
Ça justifie pas qu'on comprenne rien à ce qu'ils disent, en fait. Moi, ça m'a complètement sorti du film, en fait. Donc,
J'ai vu passer ça. Les gens se sont pris la tête sur Twitter à propos de ça. Je pense que c'est trop réaliste parce qu'en effet, c'est un français à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai qu'on comprend pas très bien. J'aurais apprécié des sous-titres. Mais après, ils disent rien d'intéressant.
Oui, puis les Amérindiens parlent un parfait anglais, quoi, à côté, tu vois. Enfin, ça fait pas sens, quoi. Donc,
oui, c'est vrai.
Il faut être cohérent jusqu'à la fin.
Ils auraient pu parler Comanche.
Ouais.
Par rapport à ça, ils parlent quand même la moitié du temps dans leur langue natale. Et dans le film, c'est une des qualités du film, justement. Il y a la moitié en anglais et la moitié dans la langue d'origine des Indiens. Enfin, dans leur langage.
Qu'est-ce que tu réponds à Woodgall, du coup, là?
Je les ai plus entendus parler anglais, moi, qu'autre chose, mais,
t'aurais dû faire plus attention.
Ouais, ok, ouais. Et puis, je trouve qu'on ressent pas assez le danger de la créature aussi. Enfin, je me suis jamais senti en danger.
Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le personnage féminin n'est jamais en danger. Parce que justement, il ne la prend pas, au sérieux. Et c'est qu'à la fin qu'il commence. Mais c'est ça intéressant parce que comme c'est une femme, il la prend pas au sérieux. Et à la fin, il se dit oh, putain, en fait, elle est dangereuse. Pardon pour le putain. oh mon Dieu, elle est dangereuse. Et là, ça commence. Mais non, c'est vrai, tout le long, il la prend pas au sérieux. C'est hyper intéressant de la lecture féministe de ce film là-dessus. C'est quand même super cool. Mais c'est vrai, du coup, bah, on la sent pas trop en danger. Ça marche pas trop sur nous. C'est un peu le revers de la médaille.
Ok, bah, du coup, un film avec une lecture féministe et inspirant pour les petites filles.
Non, pas du tout.
On a bien compris ça. Je retiens ce que t'as dit, Yavid. Et ben, merci à vous, messieurs. Donc, on garde plein d'idées pour aller au cinéma. On va un peu récapituler tout ça. On a Asbestas, on avait Nope, Everything Everywhere, 3000 ans à t'attendre, La Nuit du 12, Le Samaritain, The Grey Man, qu'il faut pas aller voir, évidemment. Et bah là-dessus, on vous souhaite une bonne soirée.
Ciao, ciao.
Bonne soirée tout le monde.
Bon visionnage.
Ciao.
Allez au cinéma.